Bonjour à tous, Christiane Campagna avec vous cette semaine pour vous présenter les sujets du National. Comme vous le savez maintenant, le National vous permet d'entendre ou de réentendre les sujets et les entrevues de la semaine que nous avons jugés les plus pertinents et les plus intéressants pour tous les francophones du Québec et du Canada. On débute aujourd'hui avec l'émission « Des livres plein les oreilles » du 9 novembre dernier. Clotilde Tsay recevait Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles, fondatrices de SACAD, un centre d'expertise en autisme de Québec. Elles sont aussi les auteurs du livre « L'autisme expliqué aux non-autistes ».
L'autisme expliqué aux non-autistes. C'est signé Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles.
Bonjour.
On est vraiment très, 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 très touchés et très heureux aussi de vous recevoir à cette émission-là. Bon, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai même dévoré, c'est certain. C'est un livre dont on a beaucoup parlé. Vous avez eu la chance, et j'en suis très heureuse pour l'autisme en général, d'être accueillie notamment à l'émission « Tout le monde en parle ». Ça a dû faire un bien fou, je veux dire, pour ce livre, mais pour toute la communauté des personnes autistes. Très rapidement, je voudrais présenter Mme Harrison. Vous êtes vous-même une personne autiste. D'ailleurs, vous me direz pourquoi parfois on dit une personne autiste ou une autiste.
Les gens ont de la difficulté à dire autiste à quelqu'un parce qu'ils ont l'impression de l'insulter.
C'est ça.
J'ai appris ça à travers les entrevues.
Et la même chose que pour un handicapé, je m'excuse.
Et voilà.
Donc, on va dire souvent une personne handicapée plutôt qu'un handicapé ou une handicapée. Voilà. Et on vous présente à un moment donné dans un article que j'ai lu sur vous comme une architecte du langage entre les... Non, mais j'ai beaucoup aimé ce titre d'architecte du langage, car je précise qu'en plus d'être la co-auteure, du moins vous avez participé beaucoup à ce livre-là, vous avez aussi créé avec l'autre invitée, Madame Saint-Charles,
bonjour,
vous avez créé toutes les deux SACAD. Vous êtes toutes les deux spécialistes en autisme. Vous, Madame Saint-Charles, vous ne vivez pas avec l'autisme,
non. Mais
vous connaissez bien l'autisme. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir spécialiste en autisme?
C'est une très longue histoire, je vous dirais.
C'est une longue histoire.
Oui, ça fait plus de 40 ans que je m'intéresse à l'autisme. Pourquoi les gens me posent la question? Puis j'avais personne
non.
dans ma famille, j'avais personne autour de moi comme tel, mais ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait fortement.
C'était ton métier?
Et après ça, j'ai fait le travail là-dedans pendant bien des années.
Vous êtes un binôme inséparable ou est-ce qu'on peut vous séparer à l'occasion? Est-ce que vous seriez venue seule, Mme Harrison, Brigitte?
Pas dans Montréal.
Non, OK.
À la campagne, oui.
À la campagne, oui. À Montréal, c'est comme trop de...
C'est gros.
C'est gros, ouais. C'est ça, pour la situation. Et puis, vous, Madame Saint-Charles, le fait de travailler avec une personne autiste, ça a dû faire avancer beaucoup votre travail.
Effectivement. Puis j'ai fait le choix parce que je travaillais dans les services publics auparavant pendant près de 30 ans.
Ouais.
Et quand Brigitte est venue me demander si je voulais faire le travail avec elle, j'ai quitté justement les services publics et pour être capable de pouvoir avancer plus. Et enfin, j'avais une réponse avec ce que Brigitte nous apportait, avec tout ce que j'avais vu dans le passé.
Exactement.
Et je trouvais que le système avançait pas suffisamment rapidement.
Oui.
Moi, j'avançais en âge, puis je me disais, non, on peut pas se permettre d'attendre encore et encore toute cette grosse machine-là. Alors, je suis partie avec Brigitte faire créer SACAD.
On peut dire que l'autisme, vous connaissez bien ça, l'une comme l'autre, évidemment, pour deux raisons différentes. Mais est-ce qu'il vous arrive encore, est-ce qu'il y a encore des fois où vous dites, celle-là, je la comprends pas. Là, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et dans ces cas-là, vous vous retournez, j'imagine, vers Brigitte Harrison. Mais est-ce qu'on en sait encore vraiment beaucoup sur l'autisme, finalement?
On apprend encore, je vous dirais, à tous les jours par rapport à l'autisme, même avec l'âge qu'on a, avec l'expérience qu'on a. On est constamment en train de se questionner, de fouiller, de tenter de trouver les réponses. Tout est à faire en autisme. On a longtemps pensé que c'était associé avec la déficience intellectuelle.
Ouais.
Ces années-ci, on pense que c'est du trouble de comportement, mais ça n'en est pas. On sait que c'est un trouble neurodéveloppemental, un trouble de connexion. Alors, c'est plus dans le champ des neurosciences. Alors, tout est à découvrir.
Oui, Brigitte, vous vouliez dire quelque chose?
On a une clé pour travailler, mais on n'a pas fini de comprendre.
Oui. Et vous avez une phrase, en fait, je voulais finir par cette phrase-là, mais finalement, je vais la citer maintenant, parce que quand je l'ai lue, elle m'a bouleversée, cette phrase. Je peux même vous dire, j'ai eu quasiment les larmes aux yeux. C'est lorsque vous dites, Brigitte Harrison, ce qu'il y a de pire que d'être autiste, c'est de ne pas avoir le droit de l'être.
Ouais.
Et ça me fait encore le même effet.
Oui.
C'est un... c'est une forme, c'est une... Ben, j'aime pas le mot enfermement parce que ça existe dans le domaine de la déficience mentale et donc on sait que ça n'est pas une déficience mentale, mais c'est un enfermement quand même, je veux dire, de pas se faire comprendre.
C'est terrible ce que les autistes vivent présentement. C'est terrible la souffrance des personnes autistes parce que quand c'est le système de communication qui est touché, tu peux pas dire au secours. Et comme c'est le système d'émotion qui arrive en dernier, ça paraît pas non plus dans le visage. Ça fait que les personnes autistes sont coincées pour attendre après les gens pris comme ça avec une majorité qui a pas de déficience intellectuelle en plus.
Non, c'est ça.
Donc, c'est pour ça qu'on a décidé un jour, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus simple de passer par le langage conceptuel, d'aller donner la voix aux autistes, leur donner une voix, et à partir de ce moment-là, on va régler la base. Et on pourra passer à autre chose. Parce que je suis certaine, moi, les gens, ils font pas exprès, ils pensent bien faire.
Ouais.
Mais c'est terrible ce qui se passe.
Cela doit. Cela doit. Et quand on lit ce livre-là, qui est bien écrit, parce que je le précise pour les auditeurs, hein, l'autisme expliqué au non-autiste, ne pensez pas qu'il s'agit d'un livre scientifiquement parlant, inaccessible. C'est tellement pas le cas. Il y a des phrases comme ça, moi, que j'ai surlignées. Celle-ci, par exemple, qui est à la fin du bouquin. Bon, les origines de l'autisme restent un mystère, mais le fonctionnement du cerveau autistique nous est de plus en plus accessible. Ça, c'est une bonne nouvelle, quand même.
Oui, oui. Hein? Et chez nous, les filles en neuropsy lisent beaucoup de t'sais, on essaie de se tenir à jour avec les études pour qu'on essaie toujours de mettre à jour ce qu'on sait et qu'on arrive à comprendre de mieux en mieux. Lise pose encore beaucoup de questions.
Oui. C'est bien. Bravo, Lise.
Oui, dites-lui merci pour son million de questions.
Ah oui, hein, sûrement. Parce qu'il y a des réponses qui font avancer les choses.
Il faut
aussi
faire avancer tout ça encore. Ouais. Et on a la chance, c'est exceptionnel d'avoir une personne comme Brigitte qui puisse être capable de nous décrire ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Donc, pour nous permettre d'avancer, quand on fait référence au langage conceptuel, puis on fait souvent le parallèle en disant qu'en surdité, c'était des petites jumelles sourdes qui avaient comme mis ça en place il y a près de 300 ans. On dit en autisme, c'est Brigitte comme personne qui est concernée par cette problématique-là qui nous a comme fait découvrir ça, ce mode de communication-là qui répond finalement à toute personne autiste, qu'elle ait 2 ans ou qu'elle en ait 75 ans, que ce soit un ingénieur ou un grand-parent qui est autiste ou un enfant tout petit, ça n'a pas d'âge et ça permet, c'est incroyable le travail que ça peut faire pour les personnes autistes.
Alors, toutes ces questions dont vous parlez, Brigitte Harrison, elles sont posées dans ce livre-là. C'est-à-dire que si vous, comme moi, on se pose la question, par exemple, pourquoi la personne autiste peut-elle réagir très fortement lorsqu'elle se fait une petite égratignure sur le bras et ne pas réagir du tout lorsqu'elle a une fracture du fémur? Bon, c'est le genre de phrase, on ne pourra pas répondre à cette émission-là, mais c'est pour indiquer aux personnes, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-il très sélectif dans le choix des aliments? Pourquoi ceux-ci ne doivent-ils pas se toucher dans son assiette? Et il y en a comme ça des questions. Là, on sent toute la curiosité de Lise Saint-Charles et on sent vos explications parce que vous êtes là pour le côté explicatif des choses. À un moment donné, qu'est-ce que j'avais noté ici? C'est une très belle explication que vous donnez, en tout cas, peu importe. Il y a vous qui vous souvenez, Brigitte, pour nous. Et là, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que tous vos souvenirs, vous en parlez au passé comme si c'était fini. Ça veut dire que tous les blocs de Brigitte se souvient, tout est écrit à l'imparfait ou au passé. Par exemple, avec des repères forcément externes, la vie n'est pas simple. La notion du temps est très différente, écrivez-vous. Ma routine consistait à manger à heure fixe, à prendre le repas du midi à midi pile. Si le téléphone sonnait à 11h57, c'était la catastrophe et j'avais une poussée d'anxiété. Si je répondais et que l'appel durait plus de 3 minutes, je ne pouvais plus manger. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout? Vous ne vivez plus ça du tout, Brigitte Harrison?
Je le vis beaucoup moins. C'est beaucoup moins présent. Il y a beaucoup de fluctuations parce que dès que je deviens trop fatiguée ou que ça devient plus complexe dans ma vie, je me retrouve moi-même. Mais sinon, j'ai beaucoup évolué. Mon cerveau a commencé à planifier aussi un peu plus. Alors, je peux répondre au téléphone même pendant le repas maintenant.
Bon.
Ça fait qu'il y a des trucs que je fais maintenant que je faisais pas du tout, dont j'ignorais l'existence avant.
Autrement dit, comme c'est d'ailleurs écrit dans ce livre-là, à la fin du bouquin, on ne guérit pas de l'autisme.
Non.
Hein? Mais?
Mais il y a évolution.
Mais il y a une évolution favorable.
Il y a une évolution favorable, il y a une qualité de vie qui s'installe. Et on ne peut pas guérir de quelque chose qui tombe dans l'identité non plus.
Non, c'est ça.
Fait que, de toute façon.
Alors, justement, pardonnez-moi, Brigitte, je reviens sur vous, Lise, quand je dis que vous expliquez, par exemple, elle explique ceci. Sans la notion du temps, on ne peut pas intégrer les concepts de jour et de nuit. Mmh. Ça, c'est encore un concept très, très difficile pour les autistes. Et pour les autistes, tout se déroule, écrivez-vous, en temps réel. Sans pouvoir détecter la fatigue, sans la notion du temps qui donnerait un sens au jour et à la nuit, comment comprendre qu'il faut dormir? C'est le genre de question auquel
on commence à mettre des réponses,
c'est difficile, c'est long.
Mais on avance et on dit toujours, pour nous, le plus beau cadeau, dans le fond, qu'on pourra laisser, le plus bel héritage aux personnes autistes, ce sera le langage conceptuel.
Oui.
Cette langue-là qui va leur permettre enfin de pouvoir évoluer. Puis il n'y a pas d'âge de fin pour l'évolution. On a des gens de la clinique qui viennent au centre d'expertise qui ont 75 ans et ils ont encore la chance d'évoluer pour que la vie soit plus facile pour eux.
Alors, cette clinique, évidemment, vous nous en parlez aussi beaucoup et vous nous parlez beaucoup de ce langage-là que vous avez mis sur pied. C'est à Québec?
Oui, dans la ville de Québec pour l'instant. Oui,
mais il va y avoir des branches qui vont ouvrir.
On verra avec l'énergie qu'on aura.
Avec l'énergie qu'on aura, c'est ça.
C'est hyper complexe de transmettre, de superviser, d'avoir des gens qui restent en place. Et bon, on est chanceux. Nous, on n'a pas vraiment beaucoup de roulement de personnel. Mais c'est très complexe de transmettre tout ce qu'on sait faire ou ce qu'on sait lire, je devrais dire. Mm-hmm. Et on va commencer par asseoir la première clinique comme il faut.
Comme il faut.
Pour ne pas faire comme d'autres ont fait et déraper parce qu'ils sont allés trop vite.
Mm-hmm.
Et à partir de ce moment-là, on verra comment on va le faire. Peut-être qu'on ira vers une accommodation à distance pour les gens. On a déjà commencé de toute façon.
Oui.
Il y a moyen de faire
quelque
chose maintenant.
Il y a moyen maintenant avec Skype, FaceTime, tout ça.
On est capable de faire de la supervision et des suivis à distance. Moi, je fais une blague. Je dis, comme l'autisme est un très gros tabou, faisons-nous un grand complexe.
Vous avez un sens de l'humour, Brigitte. Là, depuis que vous êtes arrivée tantôt, là, je l'écoute, elle a un sens de l'humour assez développé, merci.
Ouais.
Et il y en a une qui a un sens de l'humour aussi assez développé, c'est Kim Thuy.
Ouais.
Et Kim Thuy, vous voyez beaucoup, hein, c'est vraiment devenu une amie maintenant. Et elle est le témoignage parental là-dedans, parce qu'évidemment, elle a son fils, hein, Valmont, qui est autiste. Et alors, elle témoigne, hein, elle nous raconte des choses.
Ouais.
Comme par exemple ici, Kim Thuy. Comme tout parent, j'attendais Valmont à son retour de l'école sur le trottoir. Dès qu'il débarquait du véhicule, je me précipitais vers lui, je le touchais, je le bombardais de questions. Comment ça va? T'es fatigué? Maman t'a préparé du poisson? Enfin bon, en plus on l'imagine bien, Kim Thuy. 10 fois sur 10, Valmont m'évitait en courant très vite vers la maison. Il se réfugiait par la suite dans le creux du sofa, les doigts dans les oreilles en transpirant à grosses gouttes. J'imagine que ce que sa CAD a permis, c'est ce qu'ensuite elle a fait avec son garçon. Depuis que Brigitte et Lise m'ont expliqué le malaise provoqué par ma trop grande présence, je reste assise. Jusqu'à ce que Valmont soit prêt. Il me revient alors en dégageant mes cheveux pour humer ma nuque, pour me déposer des baisers sur les paupières, les joues, sous le menton, la tête. Et je reste tranquille pour qu'il me voie. Je reste tranquille pour ne pas le brusquer. Je reste tranquille pour l'aimer à son rythme, à sa manière. En fait, c'est très logique. On ne peut pas aimer un poisson en le flattant comme un chien. Je sais comment mieux aimer Valmont. Ça vous fait encore rire, et pourtant, vous le connaissez, hein, ce livre, mais c'est vraiment du qui. Mais c'est pour ça que ce livre est essentiel, parce qu'il y a une humanité, tout est incarné, quoi. Parce que l'autisme est incarné par vous, Brigitte Harrison. Le travail sur l'autisme est incarné par vous, Lise Saint-Charles. Et puis, il y a ces témoignages de Kim. Saccad, donc, on peut vous rejoindre comment si on... Par Internet, si on fait Saccad avec 2 C, S-A-C-C-A-D-E.
Il va sortir rapidement en premier, oui.
D'accord. Ouais. Et puis, je voudrais aussi finir par vos mots à vous, Brigitte, si ça ne vous dérange pas. C'est en page 94 que j'avais relevé ça. Ah ben non, j'en ai déjà parlé. C'est parce que moi aussi, je me posais la question, pourquoi vous parliez encore à l'imparfait et au passé? Mais vous avez déjà répondu à ça. Je voudrais vous remercier toutes les deux. Vous savez, en seconde partie, vous serez sûrement déjà parties, mais je vais lire un extrait, quelques pages, pour qu'on se rende compte. Et j'ai choisi l'extrait de la coupe de cheveux, parce que j'ai trouvé ça tellement éloquent. Pourquoi les autistes n'aiment pas se faire couper les cheveux. Je vous remercie beaucoup, Lise Saint-Charles. Merci. Brigitte Harrison. Je rappelle le titre du livre, disponible évidemment maintenant en audio au SQLA, « L'autisme expliqué aux non-autistes ». Et puis, je vais vous souhaiter bonne chance pour la suite des choses.
Merci beaucoup.
Merci pour ce que vous faites, parce que j'ai l'impression qu'avant vous, il n'y avait pas grand-chose. Hein, mais là, on touche à quelque chose de plus concret.
Absolument.
Ouais. Les gens se rassemblent.
Ouais, oui, hein. Je vous dirais que depuis 70 ans, j'ai l'impression qu'on se rapproche beaucoup, beaucoup d'une réponse vraie cette fois-ci.
Et je finirai par ça. D'où ça vient, autisme? Ça vient d'auto, comme auto, comme moi-même.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Alors, cela dit tout.
C'est bien dit.
C'est bien. Merci beaucoup, Brigitte Harrison. Merci Lise Saint-Charles. Plaisir de vous rencontrer.
Merci beaucoup.
Avec le tien, puis ça me sort.
À l'émission Accès libre cette semaine, notre chroniqueuse destination, Aube Savard, nous a présenté des blogueurs voyage qui ont tous en commun de traiter de voyages accessibles.
Il y a encore un peu de bruit puisqu'il y avait beaucoup de monde à l'émission et ça colle bien avec l'ambiance habituelle que nous dépeint notre chère Aube, chroniqueuse destination. Bonjour à toi.
Bonjour.
Bonjour, merci de nous apporter un peu de soleil là, parce qu'on en a besoin. C'est ça.
Ils vont vous amener voyager un peu partout aujourd'hui.
Oui. Donc, Aube Savard, vous avez 4 blogs à peu près à nous présenter pour être bien informé vers les découvertes accessibles.
Oui. Tout d'abord, il y en a un d'une jeune Belge, Blandine. C'est un blog donc qui s'appelle 1000 découvertes sur 4 roulettes. Son site web, par contre, s'appelle 1000découvertes4roulettes.com.
Uh-huh.
C'est une jeune femme qui a véritablement la bougeotte. Elle est en fauteuil depuis quelque chose comme 3 ans, 4 ans à peu près.
Mm-hmm.
Donc, elle avait déjà beaucoup voyagé avant. Évidemment, son désir est resté aussi vif.
Ouais.
Elle vient d'accomplir un tour du monde.
Elle a fait un vrai tour du monde?
Oui.
OK, donc ça veut dire qu'elle a touché tous les continents.
Exactement.
Oh là là.
Un an, toute seule.
Incroyable. Donc, c'est une femme à découvrir. Et
on
rappelle son site web, on le retrouve à www.1000découvertes4roulettes.com. C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Bon. Un autre site web, cette fois-ci, une petite affaire française?
Oui, tout à fait. Andy Lol, ça a été fondé par deux frères, dont un a une dystrophie musculaire.
Mm-hmm.
Les deux voyagent toujours ensemble parce que Rudy a besoin d'aide dans ses soins quotidiens.
Mm.
Et c'est un site pratico-pratique. On y trouve énormément d'informations très détaillées. C'est vraiment plus un site web qu'un blog.
Okay.
C'est axé vraiment sur l'accessibilité. Il y a même une carte accessibilité qu'ils ont créée qui permet de voir en un clin d'œil à quel point sont accessibles les villes qu'ils ont visitées.
OK. En un clin d'œil, comment vous dites? On retrouve ça, il y a comme une géolocalisation des différents lieux? Ça ressemble à quoi?
Oui, en fait, c'est une carte du monde, tout simplement, un plan. Et puis, il y a une légende de vert foncé qui est très accessible, à rouge qui est avec une accessibilité qui est particulièrement difficile.
Mm-hmm.
Et donc, ça permet d'avoir en un coup d'œil, par exemple, Bruxelles, c'est une ville qui est, paraît-il, très difficilement accessible, alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux. Et puis, donc, ça permet d'avoir un petit coup d'œil très, très, très rapide, en fait.
Et donc, juste être certain, j'imagine que c'est écrit, ça, sur le site, là, même si, parce que des fois, on ne voit pas le vert, vous voyez.
Non, non.
Mais c'est bien écrit, c'est bien détaillé.
C'est très détaillé,
bon,
vraiment, là.
Content d'entendre ça. Alors ensuite, Curb Free with Corey Lee.
Oui.
Oui.
C'est un gars des États-Unis qui se déplace en fauteuil motorisé en raison d'une amyotrophie spinale. C'est quelqu'un qui est vraiment renommé dans le milieu. Il est très connu. Il a une excellente réputation.
Okay.
Il y a 50 000 personnes qui le suivent.
Il a même été invité à Kéroul récemment. À Kéroul. C'est toujours ça comme une destination. A été invité par Kéroul.
Oui, exactement. L'été dernier, ils ont effectué une tournée de presse. Donc, ils ont invité Kéroul à venir visiter certaines régions du Québec. Et il en parle sur son blog.
Bon.
Donc, c'est vraiment super intéressant, avec des photos. On le voit même avec Isabelle Ducharme, qu'on connaît bien.
Ben oui.
Donc,
qui va mieux d'ailleurs. On rassure les gens là, qui ont vu qu'elle a eu quelques problèmes de santé. Elle va mieux là, maintenant. En tout cas, j'en profitais pour le dire. Donc, on envoie, évidemment sur la page, on va l'inscrire, mais on envoie à curbfreewithcoreylee.com en anglais. On le mettra en français sur notre site. OK. Et avant de se quitter, un 30 secondes pour un petit dernier, toujours par un Américain.
Oui. Donc, wheelchairtravel.com. ORG.
Oui.
C'est une grande source d'information aussi. Il y a une foire aux questions.
Ah, ça, c'est bien.
Et il y a une particularité, c'est-à-dire que pour chaque destination, il a noté les attractions touristiques, les hôtels, les transports en commun, les taxis accessibles, les trottoirs,
oui.
Une note sur 5.
Pour vrai, donc, tous les aménagements, mais pas juste là, l'hôtel, sa toilette ou sa salle à manger, mais vraiment pour se rendre de l'information sur l'accessibilité.
Oui.
Bon, c'est heureux, ça. Puis, il a fait beaucoup de voyages aux États-Unis, mais on répertorie aussi d'autres continents, là.
Ah oui, oui, il est allé en Europe, en Asie, en Afrique. Il a fait 27 pays en tout.
Bon, bon, bon.
Ben, c'est pas rien.
C'est pas rien. Et comme d'habitude, c'est le fun de vous recevoir, Observeur. On rappelle que les quatre sites web seront au bas de la page si vous nous écoutez par Internet. Merci beaucoup pour ce détour plein de destinations accessibles.
Ben, ça fait grand plaisir, comme toujours.
Donc, à bientôt.
Et nous, de notre côté, on poursuit le voyage du National après la pause. Bonjour tout le monde. Christiane Compagnon au microphone qui vous souhaite la bienvenue à cette seconde partie du National sur les ondes de Canal M. À l'émission Aime la vie, on aime bien vous parler de technologie. Et le 13 novembre dernier, Kevin Breton a reçu Dany Lucier-Desrochers, professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, afin qu'il nous parle des possibilités de la technologie pour l'autonomie résidentielle des adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle.
Deux mythes entourant les personnes avec une déficience intellectuelle persistent. Il y a que ceux-ci ne peuvent nécessairement pas vivre seuls et qu'ils doivent vivre avec un aidant. Et un autre mythe, c'est qu'ils ne savent pas utiliser les dernières technologies. C'est justement en confrontant ces deux mythes qu'on va pouvoir contribuer à améliorer leur autonomie chez eux. Pour nous en parler, le professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Dany Lucier-Desrochers. Bonjour.
Bonjour, M. Breton.
Premièrement, j'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à l'autonomie en résidence des personnes avec une déficience intellectuelle.
Bien, en fait, l'autonomie en milieu résidentiel, l'accès au logement, c'est un vecteur social très important pour l'inclusion sociale des personnes. En fait, avoir son chez-soi, avoir un lieu de résidence qui nous ressemble et qui nous appartient, c'est un pas très important vers l'inclusion sociale des personnes. Alors, pour nous, c'était une dimension qu'il fallait aborder et trouver des moyens qu'on pourrait mettre à l'intérieur de la maison pour favoriser un accès plus élargi à ces milieux résidentiels-là pour les personnes présentant une déficience intellectuelle qui comporte notamment plusieurs défis aussi.
Oui, parce qu'on voit souvent des initiatives du genre, en fait, là, qui voient le jour pour permettre à ces personnes-là d'éviter l'institutionnalisation et d'avoir leur appartement à eux. Est-ce que la solution passe, en tout cas au moins partiellement, par les nouvelles technologies?
Bien, en fait, les nouvelles technologies peuvent soutenir une partie des activités liées à la vie quotidienne pour les personnes. Les technologies peuvent, par exemple, aider la personne dans la réalisation de ses tâches quotidiennes. Nous, on a fait des études, on a développé une application, par exemple, l'application Marty, qui permet, avec des images, des photos et des vidéos, de montrer étape par étape les séquences, par exemple, pour faire une recette. Bien, pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, c'est déjà un premier pas, un outil très important dans leur vie, qu'elles peuvent utiliser et assurer leur autonomie pour la réalisation des repas. On peut aussi utiliser des technologies pour assurer la sécurité de la personne. Par exemple, au niveau de la santé, la prise de médicaments peut être un enjeu pour les personnes en appartement, mais on ne sait souvent pas, les personnes présentant une déficience intellectuelle ne connaissent pas la dose de médicaments ou quand les prendre. Alors, on peut avoir un pilule électronique qui peut aussi faire le travail. Alors, il y a différentes technologies qu'on peut implanter à l'intérieur de la maison qui peuvent favoriser la sécurité, aider à la réalisation de tâches, aider la gestion des horaires et donc favoriser une vie autonome dans ces milieux-là.
Donc, on peut penser par exemple à des diapositives avec des photos qui expliquent point par point comment faire une recette de gâteau carotte, par exemple, ou encore un pilulier qui va donner un indicateur si tel médicament a été pris ou a été pris en trop pour X journée, par exemple.
Oui, ces technologies-là sont disponibles sur le marché actuellement. Il suffit juste de les connaître puis de les trouver. Mais si on donne cet accès-là aux personnes, elles peuvent avoir facilement trouvé ces technologies et les utiliser en milieu résidentiel. On peut avoir des tablettes, par exemple. On parle d'aider à la séquence des tâches avec des diapositives qu'on peut utiliser sur un téléphone intelligent ou une tablette numérique. Mais on peut aussi avoir des moyens plus simples. On peut prendre un cadre photo numérique et au lieu de mettre les photos de notre voyage, on peut mettre la séquence d'une tâche pour réaliser une recette pour faire le lit, faire le lavage. Alors, on peut utiliser ces moyens-là qui sont à faible coût, une cinquantaine, soixantaine de dollars, et faire la différence dans la vie de la personne.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de retard à rattraper pour permettre aux personnes avec une déficience intellectuelle de profiter de ces technologies-là qui nous semblent, tu sais, déjà accessibles pour le commun des mortels, mais qu'on n'a jamais vraiment rendu adaptées à leurs besoins?
Mais en fait, c'est ça un des grands enjeux. Les technologies sont faites pour la population générale. Quand les concepteurs développent des nouvelles technologies, ils ne prennent pas nécessairement en compte les besoins et les capacités des personnes présentant une déficience intellectuelle ou des difficultés au niveau cognitif. Ce qui fait en sorte que quand il y a un nouveau logiciel qui sort ou une nouvelle technologie, ce sont les personnes qui présentent une déficience intellectuelle qui doivent s'adapter. Mais par leurs limites au niveau cognitif, au niveau de la mémoire, du raisonnement, c'est plus difficile pour ces personnes-là d'apprendre des nouvelles technologies. Alors nous, on part aussi de la prémisse en se disant, à un moment donné, il va falloir que les technologies soient développées en collaboration avec ces personnes-là. C'est comme ça qu'on va assurer une meilleure utilisation. Et si ça fonctionne avec les personnes présentant une déficience intellectuelle, il est fort probable que la même technologie va fonctionner auprès des personnes âgées qui ont des difficultés en milieu résidentiel ou qui présentent d'autres problématiques. Alors, le groupe de référence dans le développement technologique devrait être les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ou qui ont des difficultés au niveau cognitif, parce que ça va assurer une meilleure généralisation, mais ce n'est pas encore très implanté dans les pratiques des compagnies informatiques. Il faut encore faire du travail pour les convaincre.
Un travail donc de représentation, un travail également de mise en commun des informations à notre disposition. Vous, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, vous avez un projet là-dessus. Vous travaillez notamment avec la Fondation des Petits Rois pour venir en aide à l'autonomie résidentielle des personnes avec une déficience intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Bien, en fait, c'est un projet résidentiel qu'on essaie de développer dans lequel on va inclure des technologies pour des personnes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme associé. Et donc, c'est des personnes qui ont de grands besoins en milieu domiciliaire et on va essayer de trouver les meilleures technologies pour les soutenir. Alors, ça va être un milieu résidentiel avec de 8 personnes environ. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver la solution technologique pour différentes tâches, par exemple, pour assurer les soins quotidiens, pour assurer la gestion des horaires à l'intérieur de la maison et tout. Alors, on va essayer d'accompagner les personnes dans leur vie. Et donc, par exemple, je vous donne un exemple de technologie qui peut être intéressante. Il y a des personnes parmi les résidents qui ont des problèmes au niveau de la sensibilité, au niveau tactile. Ils ne savent pas reconnaître la différence entre l'eau chaude et l'eau froide. Alors, ça peut être dangereux si elles vont prendre leur bain, par exemple, et que l'eau est trop chaude. Alors, on a des pommeaux de douche lumineux qui, quand l'eau coule rouge, ça veut dire qu'elle est très chaude. Et quand l'eau coule verte, ça veut dire qu'elle est tiède et qu'on peut aller prendre notre douche et qu'il n'y a pas de danger. Alors, il y a des technologies comme ça qu'on va intégrer dans ce milieu résidentiel-là et qui vont aider les personnes à vivre au quotidien, là.
Ça ouvre des portes énormément. Donc là, on parle d'ouvrir des portes dans notre domicile, dans notre demeure, mais ce type de technologie-là, via des nombreuses applications, vient déjà en aide à des personnes avec une déficience intellectuelle sur le marché du travail. Vous me parliez, entre autres, d'un exemple dans un Tim Hortons où une personne réussit à accomplir ses tâches grâce à son téléphone.
Absolument. Et c'est exactement ça, l'application Marty dont je vous parlais tout à l'heure, qui a d'ailleurs été développée avec des personnes présentant une déficience intellectuelle. Alors, c'est elle qui nous ont dit, on aimerait ça que l'application ait telle ou telle fonction, qu'elle puisse nous soutenir de telle façon. Alors, on a utilisé ce modèle de conception-là directement avec les personnes. Alors, on a conçu cette application-là qui permet, avec des photos, des vidéos, d'avoir les séquences de tâches, comme par exemple, travailler au Tim Hortons, bien, il y a des étapes, par exemple, pour laver les tables. Alors, chacune des étapes a une séquence, a une image associée, et ça aide les personnes à s'intégrer à l'intérieur du milieu du travail. Alors, il y a plein d'initiatives du genre qui sont faites actuellement et qui sont vraiment aidantes pour les personnes. Alors, c'est non seulement l'intégration en milieu résidentiel, mais l'intégration dans le milieu du travail. Les technologies peuvent aussi aider la personne à assurer ses déplacements dans la communauté. Par exemple, on peut, avec les fonctions GPS, l'aider à avoir son chemin puis prendre les bons autobus. Alors, pouvoir avoir cette option-là. Alors, les technologies peuvent aider vraiment à plusieurs niveaux.
Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. On a glissé un mot brièvement sur cette maison dans laquelle vous vous occupez du volet technologique de la Fondation des Petits Rois qui devrait voir le jour peut-être d'ici 2 ans. Le site Internet, c'est petitsrois.org si jamais on veut en apprendre plus. Félicitations pour votre travail et votre expertise qui est même reconnue à l'extérieur du Québec. Là, vous avez d'ailleurs reçu une subvention du ministère de l'Ontario pour vos démarches et vos projets. Merci beaucoup, Monsieur Lucien Desrochers.
Merci à vous.
Edgar était un vrai Soulon. Il écrivait toute la journée. Il n'écrivait pas de chansons, mais des contes où l'assassin l'emportait toujours haut la main. La victime était homme de bien. Atroce se sentait pris malgré les honneurs et les prix. De l'alcool était avili. Courant d'une ruelle à l'autre, son paletot se déchirait. Dans la boue, il se rassasiait. Dans la vermine, il se vautrait. Garde au fou qui sommeille au fond d'un manoir décrépit, jouant de ses mains sanguineuses une valse de Chopin affreuse.
Cinq générations, nous n'avons eu aucune réunion. le soir, qui que ce soit, tant que je gueule, je reste seul.
Dans le bloc, pour un bout encore, je veux avoir ce qu'on n'a pas.
visitez notre site web au canalem.vusezvoix.com et notre page Facebook à facebook.com/canalemvusezvoix.
C'est en ayant un objectif d'équipe en tête plutôt qu'un objectif individuel que l'escrimeur en fauteuil roulant Pierre Mainville a entamé les championnats du monde. Mercredi dernier à Rome, le vétéran de Saint-Colomban a été le meilleur Canadien avec une 19e place à l'épée masculine B. Mainville a remis une fiche de 2-3 en poule pour ensuite s'avouer vaincu 15-9 contre le Letton Oleg Garkuls-Gurevics, éventuel 7e dans le tableau par élimination directe. Le Britannique Dimitri Coutia a eu raison de l'Italien Alessio Sarri en finale pour l'or. Deux de ses défaites en poule se sont terminées par la marque de 5-4. Ce sont des matchs que j'aurais pu gagner. Je suis quand même content, car malgré ma blessure à un coude, j'étais capable de tirer. Je n'avais pas vraiment d'espoir de médaille, a relaté Mainville, ajoutant que le Letton a été la révélation du jour dans cette catégorie. L'escrimeur québécois de 44 ans pensait bien prendre sa retraite sportive cette année ou l'an prochain, sauf que l'arrivée de nouveaux membres dans l'équipe nationale a changé la donne. Cette année, nous participons à la compétition par équipe et pour ne pas les laisser tomber, j'ai décidé de continuer jusqu'à ce qu'on trouve un remplaçant. On verra où ça va me mener. J'ai toujours voulu faire des compétitions par équipe pendant ma carrière et lorsque ça se présente, c'est quand je pensais arrêter, conclut-il, en riant. Des nouvelles mesures pour les proches aidants et les parents. C'est sur le site de Radio-Canada. Les nouveaux parents canadiens, à l'exception de ceux du Québec, pourront, dès le mois prochain, étaler leurs prestations fédérales de congés parentaux sur une plus longue période. Ottawa a aussi annoncé que des prestations d'assurance-emploi pourront être accordées pour prendre soin d'un adulte ou d'un enfant à compter du 3 décembre. D'une part, Ottawa prolongera la durée des congés parentaux pour les employés d'entreprises qui relèvent du fédéral à l'extérieur du Québec. La prestation remise à l'un des deux nouveaux parents pourra être étalée sur 18 mois au lieu d'un an, mais elle ne sera pas plus généreuse. Cette mesure, qui entrera en vigueur dès le 3 décembre, permettra aux parents de prendre 18 mois de congé avec des prestations d'assurance-emploi de 33 % de leurs revenus. Auparavant, ils pouvaient prendre un an de congé avec des prestations de 55 % de leurs revenus. Le congé payé pour venir en aide à un adulte blessé ou gravement malade sera d'une durée maximale de 15 semaines. Lorsqu'il s'agira d'enfants blessés ou malades, Ottawa maintient la durée du congé à un maximum de 35 semaines. Le gouvernement fédéral apporte toutefois quelques changements. Outre les médecins spécialistes, les omnipraticiens et le personnel infirmier pourront signer le certificat attestant que l'enfant est gravement malade. Un membre de sa famille élargie pourra maintenant bénéficier de cette mesure. L'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick voit d'un bon œil ces mesures, notamment en raison du vieillissement de la population. Renouvellement de licence, Canal M a besoin de votre appui. Canal M, la radio de Vusezvoix, a déposé une demande pour le renouvellement de sa licence de radiodiffusion auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, afin que notre chaîne soit conservée dans le forfait de base des câbles distributeurs. Le processus de renouvellement de la licence est ouvert au public et Vusezvoix souhaiterait que vous participiez en grand nombre en nous apportant votre appui et vos commentaires. Faites savoir au CRTC pourquoi Canal M est une radio importante pour vous. Comment nous aider? Consultez l'avis de consultation et exprimez vos commentaires et appuis en complétant le formulaire en ligne du CRTC. La demande de renouvellement et tous les documents reliés sont disponibles sur notre site Vusezvoix, sur Facebook et aussi sur Twitter. Vous avez jusqu'au 8 décembre pour vous exprimer. Sur le site iciradiocanada.ca, certains Ontariens ont peur de se plaindre à son bureau, dit l'Ombudsman des patients. Dans son premier rapport dévoilé jeudi dernier, l'Ombudsman des patients, Christine Elliott, souligne que des patients, des familles et des aidants craignent souvent des représailles s'ils se plaignent de leurs fournisseurs de soins de santé. Le gouvernement de l'Ontario a créé le bureau de l'Ombudsman des patients en 2014 et il a ouvert ses portes en juillet 2016. Dans son rapport, Christine Elliott dit avoir reçu environ 2000 plaintes entre 2016 et 2017, dont 70 % concernaient les hôpitaux de l'Ontario, alors que 19 % étaient liés aux soins à domicile et 10 % aux foyers de soins de longue durée. Les 5 problèmes principaux soulevés dans ces plaintes sont des congés inappropriés, de mauvaise communication ou un manque de communication, des difficultés d'accès aux services, une mauvaise qualité des soins et la compréhension et l'amélioration des politiques et des procédures. Selon l'Ombudsman, les 2/3 des plaintes comportent toutefois un problème de communication. Elle ajoute que de nombreux plaignants ont aussi exprimé des réserves et hésité à contacter son bureau. Il y a cette peur des représailles de la part de certaines personnes qui craignent que s'ils font une plainte, les soins à leurs proches en souffriront. J'ai dit aux gens que je pense qu'il y a peu de risques que ça se produise, mais que je ne peux pas garantir que ça ne se produira pas. Dans son rapport intitulé « Courageux, écouter, apprendre, diriger », Christine Elliott encourage les patients et leurs familles à contacter son bureau pour lui faire part de leurs problèmes et de leurs inquiétudes. Elle demande aussi aux hôpitaux, aux agences de soins à domicile et aux établissements de soins de longue durée d'adhérer complètement au processus de plainte qui, selon elle, permettra d'améliorer le système de santé de l'Ontario. Une collecte de fonds vient en aide à un artiste du Nouveau-Brunswick atteint de sclérose en plaques. L'artiste Luc Cyr, atteint de sclérose en plaques, bénéficiera d'une fourgonnette modifiée grâce à une collecte de fonds lancée sur GoFundMe il y a 8 jours. Si le nom de Luc Cyr, qui habite à Bakerbrook, ne vous est pas familier, ses œuvres le sont peut-être. Il est l'auteur des sculptures qui figurent sur les étiquettes des bières des brasseurs du Petit Sceau. Cette année, il a passé plusieurs mois à l'hôpital et dans un centre de réadaptation confronté à des problèmes de santé liés à sa longue lutte contre la sclérose en plaques, peut-on lire sur le site GoFundMe. L'objectif de 35 000 $ est presque atteint et permettra de faire l'achat d'une fourgonnette modifiée. Un montant de 33 835 $ était amassé mercredi en début d'après-midi, seulement 8 jours après le début de la campagne. Luc Cyr était étonné du montant qui a été recueilli en peu de temps. « Je ne m'attendais jamais à ça, surtout à cette vitesse-là. J'avais déjà fait des démarches pour changer notre voiture pour une fourgonnette modifiée. Quand on s'est décidé, j'ai entendu dire qu'il y avait une campagne de financement pour nous aider à payer le véhicule », explique M. Cyr. La collecte de fonds a été lancée par Vicky Lenz au nom de Paula Lenz, qui est la conjointe de Luc Cyr. Pourquoi une fourgonnette modifiée? Pour permettre à la chaise roulante de M. Cyr d'y entrer. D'ailleurs, la voiture de deuxième main a été achetée à Montréal, était en route mercredi vers Bakerbrook. L'artiste a été diagnostiqué au début des années 1990. Avant le diagnostic, vers l'âge de 25 ans, Luc Cyr se souvient d'avoir eu des symptômes liés à la sclérose en plaques.
C'était le National cette semaine. Merci à toute l'équipe qui rend possible cette émission et merci à vous de nous écouter. Pour plus d'informations ou pour écouter nos émissions ou entrevues, visitez canalem.visezvoix.com. À la semaine prochaine!